Laudetur Jesus Christus.
Alors que le Saint-Père implore aujourd'hui une fois encore de prier pour la paix, nous allons ce soir en Cisjordanie auprès de familles endeuillées par la mort d'un enfant par la guerre. Les Nations Unies ont en effet récemment ajouté l'armée et les forces de sécurité israéliennes sur la liste noire des pays ayant commis des violations graves contre les plus petits dans une zone de conflit. Lueur d'espoir en Irak, 10 ans après les heures sombres de Daesh dans la plaine de Ninive, provoquant l'exode, on s'en souvient, de dizaines de milliers de chrétiens. Certaines familles seraient de retour à Mossoul. Vous entendrez l'archevêque chaldéen de la ville. Et puis en Afrique du Sud, prestation de serment de Cyril Ramaphosa, réélu mais cette fois à la tête d'un gouvernement d'union nationale, le début d'une nouvelle ère.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Alors que la ville de Rome s'active pour être prête, le pape appelle aujourd'hui les fidèles à la prière en préparation au jubilé 2025. Au cours de l'audience générale, tout à l'heure, François les a invités à s'inspirer des psaumes, une symphonie de prières, de louanges, de bénédictions ou d'actions de grâce, dont le compositeur est, dit-il, l'Esprit Saint. Le pape qui ne se lasse pas d'implorer à prier aussi pour la paix et pour les peuples qui vivent, dit-il, au milieu des bombardements, des raids, de la faim, des violences de toutes sortes, comme c'est le cas en Terre Sainte. Ce soir, nous vous emmenons donc en Cisjordanie auprès de familles palestiniennes ayant pour point commun d'avoir toutes perdu un enfant tué par les forces israéliennes ou par les colons depuis le début de la guerre. Un sujet d'Inès Gilles.
Sana et Khaled Al-Zayn vivent la hantise de tous les parents. Aux prémices du mois de mars, leur jeune fils Mohamed a perdu la vie. Âgé de seulement 13 ans, il a été tué par un soldat israélien dans le camp de réfugiés de Jalazoun, en bordure de Ramallah où la famille habite. Son père, Khaled, les yeux rouges de fatigue, raconte.
Ils ont tiré dans son cœur, dans son ventre et deux fois dans ses jambes. C'est un enfant et ils l'ont exécuté de sang-froid.
Depuis le début de la guerre, les violences contre les mineurs palestiniens ont explosé. Entre le 7 octobre 2023 et le 3 juin 2024, 124 enfants ont été tués en Cisjordanie, selon les Nations Unies. À Kalandia, située entre Ramallah et Jérusalem, en Cisjordanie, les familles pleurent aussi leurs enfants morts. Au début de la guerre, Yasser, 17 ans, a été tué par un soldat israélien alors qu'il partait s'acheter à manger. Son oncle, Mohamed, craint aujourd'hui pour la vie de ses propres enfants.
Je ne peux pas dire à ma femme, envoie notre fils Ahmad faire les courses. Je veux quitter la Palestine. Je ne peux pas rester dans ces conditions.
Les violences israéliennes contre les Palestiniens sont rarement suivies d'enquêtes indépendantes et de sanctions, même quand les victimes sont des mineurs, et surtout lorsque le présumé coupable est un soldat de Tsahal. Inès Gilles, à Jalazoun et Kalandia, pour Radio Vatican.
Et à Gaza, plus de 37 300 morts selon un nouveau bilan. Après plusieurs jours d'accalmie censés aider l'acheminement de l'aide, l'armée a bombardé le camp de Nousserat dans le centre. Au nord, des tirs d'artillerie ont été entendus à Zeytoun, à Gazaville. Et au sud, ce sont des frappes et des combats de rue, notamment dans le quartier saoudien de Rafah. Autre foyer de tension à la frontière entre Israël et le Liban. Tsahal a annoncé hier que des plans opérationnels pour une offensive au Liban avaient été validés. Deux combattants du Hezbollah ont été tués dans des raids. Aujourd'hui, le chef du mouvement chiite est en train de s'exprimer à la télévision. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis signalons enfin ce soir que la presse libanaise se fait l'écho d'une visite pastorale du numéro 2 du Saint-Siège. Le cardinal secrétaire d'État serait attendu dans le pays du Cèdre dimanche prochain pour une visite pastorale de 4 jours. C'était il y a 10 ans, en juin 2014, la plaine de Ninive dans le nord de l'Irak assistait impuissante à l'avancée de Daesh. Malgré la libération 3 ans plus tard de Karakoche au Karamlech, les plaies ouvertes par les djihadistes persistent. Des dizaines de milliers de chrétiens avaient fui. Ils sont loin d'être revenu, mais l'archevêque chaldéen de Mossoul témoigne néanmoins d'un timide mouvement de retour. Il s'opère progressivement à mesure que l'ordre et la sécurité reviennent dans les rues. Natif de Mossoul, Mgr Michael Najib y observe l'amélioration nette, dit-il, de la coexistence religieuse.
On ne pense plus comme auparavant à l'époque de Daesh et à l'époque de Al-Qaïda. C'est un chrétien, c'est un musulman, c'est un yézidi. Tout le monde vit vraiment en fraternité, en gardant le respect les uns pour les autres. Et depuis 4 ans où je suis fixé donc à Mossoul, on n'a jamais entendu vraiment qu'il y a une blessure portée par nos musulmans. Au contraire, même dans les mosquées, le vendredi quand ils prêchent, ils n'utilisent plus des mots qui nous blessent ou qui nous humilient un petit peu comme les impies, etc. Les polythéistes, on n'entend plus ce genre d'expression. Au contraire, ceux qui portent quoi que ce soit du mal les uns aux autres, il y a la loi qui le condamne. Même les maisons habitées par les gens d'Al-Qaïda ou les gens de Daesh ou les pro-Daesh, aujourd'hui, tout a été libéré par le gouvernement. Donc il y a une confiance qui commence à naître entre déjà les différentes parties des habitants de Mossoul et en même temps, l'héritage nous unit, l'art nous unit, les activités, le service, la part des jeunesses, c'est eux qui plantent des arbres dans les rues, des bénévoles énormément qui nettoient les rues. Certainement, tout n'est pas rose. Il reste encore un petit peu cette idéologie néfaste de Daesh et d'Al-Qaïda dans la tête de certains, mais ça se soigne progressivement.
C'est des propos recueillis par Delphine Allaire. C'est un des plus grands rassemblements religieux au monde, le pèlerinage musulman du Hajj à la Mecque en Arabie Saoudite. Il s'est déroulé la semaine dernière dans un des pays les plus chauds au monde, en plein été avec des températures dépassant les 51 degrés. Le stress thermique aurait provoqué la mort de 900 des 1,8 million de pèlerins, dont quelques 600 Égyptiens, apprend-on ce soir. Changements climatiques et sécheresses persistantes sont responsables de deux incendies spectaculaires dans le sud-ouest des États-Unis. Au Nouveau-Mexique, au moins 7000 personnes ont été évacués ces dernières heures. Et puis autre géant en proie cette fois, plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes, la Chine. Le pays connaît une terrible sécheresse au centre, les agriculteurs ont suspendu leur semaille, mais au sud, des pluies ont provoqué la mort de 4 personnes, fait une dizaine de disparus. La Chine où le président Xi Jinping a proclamé tout à l'heure, tout autre sujet de Vendée au gradé, sa volonté de réprimer la corruption et de renforcer la loyauté au sein des forces armées. Kim Jong-un et Vladimir Poutine sur la grande place de Pyongyang. C'était ce matin. Les deux dirigeants ont signé aujourd'hui un accord de partenariat stratégique. Le chef de l'État russe salue un texte révolutionnaire qui prévoit l'assistance mutuelle en cas d'agression entre les deux alliés contre, dit-il, l'hégémonie américaine. Le dirigeant nord-coréen a, lui, assuré que l'accord était exclusivement pacifique et défensif. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, je vous le disais en titre, a été investi pour un second mandat tout à l'heure. Il rempile après des élections disputées. Elles ont vu le parti au pouvoir, son parti, l'ANC, perdre sa majorité absolue au Parlement pour la première fois depuis 30 ans. Le chef de l'État est toutefois parvenu à monter donc une coalition. La correspondance de Johanna Klosner.
La prestation de serment a été conclue par 21 coups de canon et l'hymne national, pendant que des hélicoptères de l'armée de l'air déployaient des drapeaux nationaux dans le ciel. La cérémonie d'investiture a eu lieu à Union Buildings, le palais présidentiel situé à Pretoria. À 71 ans, Cyril Ramaphosa rempile pour un second mandat, président de la République depuis la démission de Jacob Zuma en 2018. Il devra cette fois-ci gouverner sans majorité absolue. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, l'ANC, qui a décroché près de 40% des voix aux législatives, s'est trouvé contraint de monter une coalition. Son nouveau partenaire principal, l'Alliance démocratique, un parti libéral encore largement perçu comme blanc et détenant 87 sièges à l'Assemblée. Pour nuancer ce tournant politique, l'ANC a souhaité associer d'autres partis dans ce qu'il appelle un gouvernement d'union nationale. Il comptera notamment le parti nationaliste Zulu, Inkatha Freedom Party. Reste donc à conclure les tractations concernant les portefeuilles ministériels que l'ANC cédera à ses nouveaux partenaires forcés. Johannesburg, Joséphine Klockner pour Radio Vatican.
Au Tchad, une nuit critique à N'Djamena. Le principal dépôt de munitions de l'armée tchadienne a pris feu la nuit dernière, provoquant des explosions en chaîne. Il y aurait 9 morts et au moins 46 blessés. Violence terroriste, guerre, changement climatique, aspiration à une vie meilleure. Le pape appelle à accueillir et intégrer les réfugiés à la veille de la journée mondiale qui leur est dédiée par les Nations Unies. France 3 estime que les États doivent travailler pour assurer des conditions humaines et faciliter les processus d'intégration. 281 millions de personnes vivraient actuellement loin de leur terre d'origine, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et près de 900 migrants ont traversé la Manche hier pour rejoindre illégalement le Royaume-Uni. Sur des canaux de fortune, le chiffre le plus élevé cette année, alors que l'immigration s'est imposée comme un thème majeur de la campagne pour les législatives britanniques. Elles auront lieu le 4 juillet prochain. À Bruxelles, la Commission européenne a ouvert la voie ce matin à des procédures pour déficit public excessif contre 7 pays de l'UE, dont la France, où les promesses de dépenses se multiplient à 2 semaines des élections législatives. La France, où le président Emmanuel Macron a dénoncé aujourd'hui au cours du Conseil des ministres le fléau, dit-il, de l'antisémitisme antisémitisme après le viol d'une adolescente juive près de Paris. Il a demandé un temps d'échange dans les écoles autour du racisme et de l'antisémitisme. Et puis au Vatican, on connaîtra bientôt les possibles dates de canonisation des bienheureux Carlo Acutis, le surnommé le geek de Dieu, qui évangélisait la toile avant de mourir d'une leucémie à 15 ans, ou encore celle de la religieuse canadienne Marie-Léonie Paradis, la fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Le Saint-Père réunira les cardinaux pour un vote le lundi 1er juillet. Ce sera donc un consistoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée.